France Info.
Bonjour Léon Desfontaines. Dans 2h30 à 11h, Emmanuel Macron va prononcer un discours sur l'Europe à la Sorbonne, discours pour donner le cap des années à venir. Est-ce que vous attendez quelque chose du président ?
J'attends qu'il clarifie la position de La République En Marche sur l'Europe. Mais finalement, il y a eu un Sorbonne 1, il y a un Sorbonne 2, visiblement,
oui,
aujourd'hui.
Oui, le premier discours il y a
5
ans.
Et donc le premier discours il y a 5 ans, en 2018, même si ma mémoire est bonne,
2017,
Il avait proposé une grande Europe. Mmh. D'ailleurs, il proposait à demi-mot, sans le dire, sans utiliser ces termes, une Europe fédéraliste. Et moi, je le dis, l'heure est peut-être au bilan. Cette Europe, qu'est-ce qu'elle fait ? Cette Europe, il y a quelques jours, elle a voté, par exemple, le retour des règles budgétaires européennes, austéritaires, libérales, qui ont pour conséquence les annonces d'économies de Bruno Le Maire, de 10 milliards d'euros d'économies, qui vont être 20 milliards l'année prochaine, qui vont avoir pour conséquence la fermeture de classes, un hôpital public qui fonctionne à flux tendu, des dépenses publiques, finalement, en moins pour nos services publics.
On va parler de la politique européenne. Juste sur ce discours, vous avez été vous, invité à la Sorbonne ?
Non, on n'a pas été invité. D'ailleurs, bon, je n'y serais pas allé dans tous les cas.
Élisée assure que ce n'est pas un discours de campagne. Il en veut pour preuve la largesse des invitations. Alors, pas jusqu'à vous, visiblement, mais les anciens présidents, les députés européens ont été invités. Vous y croyez, vous, que ce n'est pas un discours de campagne ?
Non. C'est un meeting pour Valérie Ayer, clairement.
Un meeting pour Valérie
Ayer. Et d'ailleurs, en réalité, avec un peu d'honnêteté politique, ça devrait être décompté dans le temps de parole de Mme Ayer.
Que vous demandez, Valérie Ayer, la candidate, la tête de liste Renaissance aux Européennes. Vous, Léon Desfontaines, vous êtes donné autour de 3% dans les sondages, en dessous des 5% requis pour avoir des élus au Parlement européen. C'est quoi votre objectif ? Est-ce que c'est de faire de la figuration ?
Ah non, notre objectif, il est clair, c'est de faire notre retour au Parlement européen. J'ai l'honneur de mener une liste de rassemblements avec, certes, des communistes, bien évidemment, mais aussi d'autres forces de gauche, issues de la France insoumise, issues des rangs du Parti socialiste, qui se retrouvent autour du projet politique que nous menons. C'est la gauche unie pour le monde du travail, et notre objectif c'est de dépasser le seuil des 5% qui permet mécaniquement d'avoir 5 élus en plus au Parlement européen. Et moi ce que je souhaite, c'est que les 4 principales listes de gauche dépassent les 5% parce que mécaniquement ça fait des sièges en plus pour la gauche et surtout des sièges en moins pour la droite et l'extrême droite.
Vous aviez fait 2,5% aux dernières européennes, qu'est-ce qui changera là ? Est-ce que vous auriez pas mieux fait de vous allier avec d'autres listes de gauche ?
Mais moi, je suis persuadé que le discours politique que nous portons, celle qui est portée aujourd'hui par Fabien Roussel depuis l'élection présidentielle, de ce discours de gauche qui remet le travail au cœur de son projet politique, qui remet la question sociale au cœur de son programme, eh bien, je pense qu'on peut aller chercher un électorat de gauche qui ne se sent plus aujourd'hui représenté par les responsables politiques de la gauche.
Vous parlez de la question sociale, ça veut dire que pour vous, LFI, les Insoumis, ils ne parlent pas de la question sociale, c'est ça qui vous distingue ?
En tout cas, ils n'en font pas une priorité. Pour certains, aujourd'hui, à gauche, la campagne européenne se résume à un enjeu autour de l'Ukraine, d'autres autour de la Palestine. Bien évidemment, ce sont deux sujets importants et nous les traitons. Mais moi, j'assume complètement. Je veux faire de la question sociale ma priorité. Et aujourd'hui, je pense aux familles. On est le 25 avril, qui dans 2 jours feront les courses et qui auront du mal à remplir leur caddie. Bien moi, c'est à eux que je veux m'adresser dans cette campagne européenne. Je veux leur dire qu'on peut agir à l'échelle européenne pour leur pouvoir d'achat. Je pense aussi à celles et ceux qui roulent dans des voitures créées par le groupe Stellantis, par exemple, et qui voient le patron de Stellantis, monsieur Carlos Tavares, son salaire à 36 millions d'euros par an. 36 millions d'euros. Dans quel monde nous pouvons vivre, dans quelle Europe nous pouvons vivre où quelqu'un peut gagner un salaire à 36 millions d'euros alors que son salaire est 500 fois supérieur en moyenne au salaire des salariés de son groupe.
Mais encore une fois, sur ce qui vous distingue, Raphaël Glucksmann, c'est l'Ukraine pour vous. Manon Aubry, c'est la Palestine. Vous, c'est quoi ?
C'est la question sociale, c'est la question de la production, la question du travail surtout.
Mais moi, je le dis, l'enjeu principal, je vais parler concrètement.
L'enjeu concret de cette campagne européenne, c'est en effet d'agir pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français et davantage de justice sociale. Sur le patron de Stellantis, Carlos Tavares, 36 millions d'euros par an, c'est son salaire. Il est en moyenne 500 fois plus élevé que les salaires de son entreprise. Eh bien, on avait une proposition pendant la campagne présidentielle, c'était de limiter les salaires de 1 à 20. C'est-à-dire qu'une entreprise, un patron qui veut augmenter son salaire, il sera obligé d'augmenter mécaniquement les salaires de ses employés qui ont les salaires les plus faibles dans son entreprise. Eh bien moi, je veux le mettre en place à l'échelle européenne. Récemment, l'Europe a mis en place des prix planchers. Eh bien moi, on m'a toujours appris que s'il y a un plancher sans plafond, eh bien le plancher prend l'eau. Moi, je veux mettre en place des prix plafonds, des salaires plafonds.
Mais comment vous faites
de limiter
qu'il faut
à
l'unanimité 1, 20.
Il faut une directive. Non, des directives peuvent être votées. Une directive récemment a été adoptée pour mettre un salaire minimum à l'échelle européenne. Qu'est-ce qu'il est ? Il est minimum, certes. Ben moi, je veux aussi un salaire plafond et je veux pas que des grands patrons, par exemple, puissent être payés 500 fois plus en moyenne que les salaires de leur entreprise. Juste quand même sur Carlos Tavares. 36 millions d'euros, je compare par exemple aujourd'hui avec un très grand chirurgien français qui, je pense, a un métier bien plus indispensable que celui de Monsieur Tavares. Eh bien, un grand chirurgien français est plus proche du salaire d'un smicard que de Monsieur Tavares. Je pense que ce salaire est exorbitant. Et d'ailleurs, Monsieur Tavares nous invitait lui-même en disant « Mais si aujourd'hui je peux augmenter mon salaire, c'est parce qu'il n'y a aucune loi qui ne me contraint à faire le contraire. »
Mais si vous
donc,
faites
légiférer,
ça au niveau européen, eh bien, les entreprises, elles vont délocaliser, non ? Elles iront ailleurs ?
Elle est déjà ailleurs, son entreprise. Elle est installée aux Pays-Bas, son entreprise.
Oui.
Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a dans l'Union européenne
parce qu'il y a pas de
une liste de paradis fiscaux.
Hors de l'Union européenne.
De paradis fiscaux. Mais moi, je dis chiche. Est-ce que vous êtes prêt à vous passer du marché français ? Est-ce que vous êtes prêt à vous passer du marché européen ? Et surtout, Stellantis, quand même. L'État est actionnaire. L'État a son mot à dire sur cette entreprise. Et d'ailleurs, l'État devrait avoir plus son mot à dire sur le salaire, justement, de Carlos Tavares. Quand même, le seul bilan de Carlos Tavares, c'est le licenciement, enfin, la suppression de 26 000 emplois dans Stellantis. Et pour ça, il est payé 36 millions d'euros par an. Bah, je pense que son boulot n'est non seulement pas indispensable, deuxièmement, on peut trouver des gens beaucoup plus efficaces que lui, et surtout, je pense que son salaire est bien trop exorbitant pour le métier qu'il fait.
Léon Desfontaines, puisque la question sociale est votre priorité, dites-vous, en deux jours, deux accords ont été trouvés à la SNCF et dans l'aérien, très favorables à chaque fois pour les salariés. Après des menaces de grève, les cheminots, par exemple, pourront partir 18 mois avant le terme prévu par la loi, en continuant de percevoir 75% de leur salaire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment qu'on achète la paix sociale pour les ponts du mois de mai, pour sauver les Jeux Olympiques aussi.
Je salue le fait qu'on ait encore un peu de démocratie sociale dans ce pays et que visiblement les discussions entre partenaires sociaux arrivent à avancer, à trouver des points d'intérêt communs et arrivent à avoir des avancées et pour l'entreprise et pour les salariés.
Mais je pense que c'est une très bonne chose. Le sens de ma question, c'était voilà, est-ce que la menace d'une grève, y compris pendant les Jeux Olympiques, comme le font les syndicats, c'est de bonne guerre ou c'est du chantage ?
Mais non, mais c'est une très bonne chose qu'on arrive à avoir la démocratie sociale. Si on était dans le cas contraire et qu'il y avait une grande grève qui était annoncée, notamment pendant le grand week-end de pont qui va arriver, par exemple, les grands week-ends de pont qui vont arriver très rapidement au début du mois de mai, tout le monde aurait crié au scandale en disant « Mais attendez, vous faites une grève pendant ces ponts pour empêcher les Français de partir en vacances. » En l'occurrence, ils ont réussi à trouver des points communs, les partenaires sociaux, notamment sur les retraites. Eh bien, saluons-le. Et deuxièmement, moi je le dis, avec le contexte de recul du pouvoir d'achat des Français et de l'inflation que nous connaissons, jamais je ne reprocherait à des syndicalistes de s'engager pour l'augmentation des salaires, pour de meilleures pensions de retraite.
Justement, Léon Desfontaines, vous parlez de pouvoir d'achat, ça va se chiffrer en dizaines de millions d'euros, un coût qui va se répercuter sur le coût du train, estime Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR. C'est le prix à payer, ça ? Est-ce que ça risque pas de retomber sur le contribuable ?
Mais baissons les taxes aujourd'hui de péage, de droits de péage qui existent par exemple sur les trains, qui font que ces billets de train sont beaucoup plus chers par exemple que les prix de l'avion.
Des taxes qui servent aussi à investir dans le ferroviaire.
On a des enjeux, mais moi sur l'investissement dans le ferroviaire, on a énormément de propositions que nous avons mis sur la table. Et notamment le fait que par exemple, la Banque Centrale Européenne pourrait directement créer un fonds de développement, c'est-à-dire qu'elle créerait une manne d'argent qui permettrait justement d'investir dans des grandes infrastructures ferroviaires permettant de développer massivement les lignes à grande vitesse, le fret ferroviaire, mais aussi les lignes du quotidien. Mais en revanche, ça ne doit pas se faire au détriment des usagers.
Léon Desfontaines, tête de liste du Parti communiste pour les européennes. On vous retrouve juste après le fil info, 8h41. Mathilde Romagnan.
Il va détailler une série de mesures pour passer à une Europe plus souveraine et plus puissante, selon les termes de l'Élysée. Emmanuel Macron donne ce matin, à partir de 11h, un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne à Paris, à un peu plus d'un mois des élections européennes. Le principal syndicat des aiguilleurs du ciel a levé son préavis de grève, mais le trafic aérien reste très perturbé aujourd'hui en France et en Europe. L'aéroport le plus touché, c'est celui de Paris-Orly. Les trois quarts de ses vols sont annulés. Un autre syndicat de contrôleurs aériens annonce ce matin maintenir, lui, son préavis de grève. Suspension de la fonction problématique du réseau social TikTok Lite. Cette fonction est accusée par Bruxelles de favoriser l'addiction des utilisateurs. Elle les récompense pour leur temps passé devant les écrans. Les ailes du Moulin Rouge, ce mythique cabaret de Paris, se sont effondrées cette nuit. L'incident n'a pas fait de blessés. On ne connaît pas encore les raisons de cette chute. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans le secteur.
France Info.
Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Jérôme Chapuis.
Toujours avec Léon Desfontaines, tête de liste Parti communiste gauche unie aux européennes. Après des années de débats, le Parlement européen a adopté enfin le pacte asile et immigration. Alors c'est un texte qui prévoit notamment un filtrage préalable des migrants aux frontières extérieures de l'UE, une procédure accélérée pour examiner les demandes d'asile aussi. Si vous étiez député européen, est-ce que vous l'auriez voté ce pacte ?
Non, je ne l'aurais pas voté malgré le fait qu'il y a des avancées notoires, nous le disons dans ce texte. mais il y a des lignes rouges qui ont été franchies pour nous, notamment le fait de laisser la gestion de nos frontières et notamment des flux migratoires à des pays limitrophes à l'Union européenne et notamment à des autocraties. Je pense notamment à la Turquie d'Erdogan. Et moi, je pense qu'en tant qu'Union européenne qui partage des valeurs des droits de l'homme humanistes, on ne peut pas laisser Monsieur Erdogan gérer l'afflux de dizaines de millions de migrants dans son pays et fermer les yeux sur la manière dont il gère cela. Et donc, bien évidemment, j'aurais voté contre pour cette raison.
Fabien Roussel, et qui dénote d'ailleurs à gauche avec ce discours, a appelé plusieurs fois à renforcer la protection des frontières. Mais vous auriez voté contre ce pacte que les Européens qui l'ont voté présentent aussi comme une avancée énorme au niveau européen. Donc vous proposez quoi à la place ?
Sur l'immigration aujourd'hui, moi mon problème c'est que les camps s'opposent autour de deux choses qui reposent sur des mensonges. Premièrement, ceux qui nous promettent les zéro immigration, comme Giorgia Meloni en Italie et ses alliés d'extrême droite, notamment Monsieur Bardella ici en France. Giorgia Meloni a dit on installe un blocus maritime en Italie et on va empêcher les migrants d'arriver en Lampedusa en Italie. Résultat, ça ne fonctionne pas, ça a arrosé les réseaux de passeurs et fait grandir les réseaux mafieux et elle se retrouve aujourd'hui à appeler l'Union européenne à l'aide pour gérer les flux migratoires et elle va régulariser des centaines de milliers de sans-papiers. Et deuxièmement, il y a ceux qui nous disent qu'il faut supprimer l'ensemble des frontières, des no-borders. Sauf preuve du contraire, un État, ça a toujours eu des frontières et ça continuera à avoir des frontières, certes pour les migrants, mais aussi pour gérer, on a tendance à l'oublier, les flux de marchandises et de capitaux. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut accueillir avec dignité et humanité celles et ceux qui fuient la guerre, la misère, bien évidemment, mais il faut aussi mener une politique d'intégration, c'est-à-dire que l'État doit mettre tout en place pour permettre à celles et ceux qui ont vocation à rester sur le territoire français de devenir des Français, donc ça veut dire leur offrir certes une formation, mais ça veut aussi dire que ceux qui travaillent, ceux qui produisent des richesses, ceux qui tiennent le pays à bout de bras, notamment certains services publics, je pense à l'hôpital, eh bien ils puissent travailler dans les mêmes conditions que l'ensemble des Français. Et c'est pour cela qu'on propose la régularisation des travailleurs sans papier. Et enfin, il faut engager une coopération. C'est le grand oubli, cette coopération. Des gens aujourd'hui émigrent de leur pays parce qu'il y a un taux d'électrification très bas, parce qu'ils n'ont pas accès à l'électricité, pas accès à une formation, pas accès à une université. Eh bien moi, je pense qu'on doit changer notre rapport à l'espace méditerranéen et à l'Afrique. Et notamment, il faut remettre à l'ordre du jour l'électrification de l'Afrique pour permettre aussi que ce pays puisse se développer et changer notre rapport à l'ensemble de ces pays.
Léon Desfontaines, si on vous écoute bien, il faut des frontières, on ne peut pas accueillir tout le monde, ce qui signifie qu'il faut des expulsions. Est-ce que c'est ce que prévoit le cadre européen qui a été adopté, la manière dont on examine les cas et ensuite comment on renvoie les personnes qui n'entrent pas dans le cadre de l'asile, par exemple, chez elles.
Mais ça, je l'ai dit, hein, ce texte, pour moi, a des avancées. La ligne rouge qui a été franchie, c'est celle de dire que Erdogan va gérer des dizaines de millions de vies dans son pays. Erdogan, sauf preuve du contraire, c'est une dictature, c'est une autocratie, et bien sûr, il est inimaginable, inconcevable même que ce pays puisse gérer nos frontières. L'Union européenne a des frontières, la France a des frontières, il faut qu'elle puisse les gérer.
Léon Desfontaines, les députés européens ont voté hier une révision de la PAC, la politique agricole commune, qui supprime ou assouplit certaines règles écologiques à l'origine de la colère des agriculteurs ces derniers mois partout en Europe. C'est un recul sur le plan environnemental ou c'est du pragmatisme tout simplement ?
C'est l'écologie rationnelle et pragmatique. Moi je l'ai toujours dit sur l'agriculture, pas d'interdiction sans solution. Je l'ai dit mais en réalité ce sont les agriculteurs qui me l'ont dit et qui nous le disent. Pas d'interdiction sans solution. Il faut que la PAC se repose autour de deux piliers, deux principes fondamentaux. Un, l'impératif environnemental. Deux, la souveraineté alimentaire. L'enjeu de la PAC, c'est de retrouver notre souveraineté alimentaire. Donc, parallèlement à cette PAC, en revanche, ce que j'aimerais que des députés européens, c'est qu'ils remettent en cause l'ensemble des accords de libre-échange qui ont pour conséquence une mise en concurrence déloyale de nos agriculteurs avec les agriculteurs du monde entier, comme c'est le cas, par exemple, avec le Chili, avec le Canada, avec la Nouvelle-Zélande.
Mais certains accords de libre-échange profitent aussi aux agriculteurs. Vous dites quoi, par exemple, aux exportateurs de fromage, aux exportateurs de vin qui ont bénéficié de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada.
Je leur dis, ne vous inquiétez pas, les Canadiens y arriveront beaucoup moins à se passer du vin et du fromage français que nous, de leur bœuf élevé aux antibiotiques.
Donc voilà, c'est facile, on peut remettre en cause les accords de libre-échange.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'échange. D'ailleurs, on commerce aujourd'hui avec les États-Unis alors qu'on n'a pas d'accord de libre-échange, par exemple. Il y aura toujours des échanges. En revanche, cette concurrence déloyale qui fait qu'aujourd'hui, on importe des produits de l'autre bout de la planète qui sont produits dans des conditions sanitaires et sociales en deçà de celles que nous avons sur le territoire territoire national et européen, eh bien, ça sera niette. Et deuxièmement, juste quand on pose la question, encore une fois, de l'agriculture, elle est intimement liée avec la question du pouvoir d'achat. Moi, je souhaite que chaque Français puisse acheter le magnifique travail de nos producteurs français, des bons légumes, des bonnes viandes, un bon vin français, à condition, bien sûr, d'augmenter les salaires et les pensions de retraite. Il faut les indexer sur l'inflation pour que chacun puisse acheter, justement, français. Et ça, c'est un des enjeux fondamentaux.
Léon Desfontaines, vous dites que c'est du pragmatisme, ce recul sur la PAC des normes vertes. Est-ce qu'il faut aller plus loin que la PAC et revoir certains objectifs? La Cour des comptes européenne, par exemple, estime dans un rapport que l'arrêt des voitures thermiques neuves en 2035 sera extrêmement difficile. Est-ce que, vous dites, les Européens ont péché par excès d'ambition?
Moi, je trouve ça problématique dans cette Union européenne. Elle décrète de belles ambitions, mais on ne donne pas les moyens de nos ambitions. Je veux dire, dans l'ensemble des autres puissances mondiales, aux États-Unis, en Chine, en Inde, lorsque le pays dit on va faire ça, eh bien, il met tout en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Là, on a dit on va passer au 100% de production de voitures électriques en 2035. Est-ce que nous avons la capacité industrielle de le faire? Non. Donc la réalité, c'est que bien sûr, il faut mettre en place une clause de revoyure sur les voitures électriques, parce que si demain on doit importer ces voitures électriques de l'autre bout de la planète, et notamment de la Chine, et être dépendant du marché chinois sur la production automobile, eh bien, ça aura un effet d'autant plus dévastateur pour le social, parce que ça va développer le chômage, et également pour notre souveraineté, et enfin pour l'environnement, parce qu'on va importer des voitures de l'autre bout de la planète.
Ça veut dire, Léon Desfontaines, que si vous êtes élu au Parlement européen, vous militerez pour l'annulation de cette mesure?
Pour une clause de revoyure à une année ultérieure, à partir du moment où on sera prêt. Et pour être prêt, il faut deux piliers fondamentaux: relancer une industrie digne de ce nom qui permet de produire suffisamment les voitures dont nous aurons besoin sur le marché français et sur le marché européen. Donc ça veut dire engager une réelle réindustrialisation en matière de production automobile électrique. Deuxièmement, augmenter le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Il faut quand même en parler. Si demain, les voitures sont à 15-20 000 euros parce qu'une voiture électrique est plus chère et que les Français n'ont pas un coup de pouce sur leur pouvoir d'achat, eh bien ils pourront malheureusement plus se déplacer.
On vous écoute depuis tout à l'heure, on se dit que vous faites partie des gens qui sont de plus en plus nombreux en Europe à dire l'écologie, ça commence à bien faire.
Ah non. Moi, l'écologie, j'en fais une priorité de ma campagne. En revanche, je ne la porte pas de la même manière que le portent mes confrères à gauche. Je le dis que si on veut répondre à l'impératif environnemental, baisser nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ça peut paraître contre-intuitif, mais va falloir produire beaucoup plus sur le territoire national et européen. Produire, premièrement, des grands travaux utiles pour l'environnement, investir dans le fret ferroviaire, remplacer des camions par des trains, notamment soutenir les infrastructures telles que le Lyon-Turin, et il y en a plein d'autres. Par exemple, attacher nos ports et docks au corridor ferroviaire européen. Nous soutenons ces grands travaux utiles. Nous disons qu'il va falloir réindustrialiser massivement le pays pour rapprocher la production de la consommation, qu'il va falloir créer des services publics de proximité, notamment ouvrir des lignes de ferroviaire du quotidien. Et pour tout ça, il va falloir de l'énergie, il va falloir de l'électricité. Et celle-ci, il faut qu'elle soit décarbonée. Et c'est pour ça que nous soutenons le mix nucléaire. Énergétique, nucléaire et renouvelable. Nous sommes les seuls à défendre...
Vous êtes écologiste, mais très loin des positions écologistes.
Mais en réalité, je suis le candidat, je suis à la tête de la liste la plus écologiste, parce que nous portons justement un plan pour arriver à cette neutralité carbone en 2050.
Léon Desfontaines, tête de liste du Parti communiste Gauche Unie pour les Européennes. On vous retrouve juste après le fil info, 8h50. Mathilde Romagnan.
Le trafic aérien est très perturbé aujourd'hui malgré la levée du préavis de grève des aiguilleurs du ciel par le principal syndicat. Les vols annulés, le reste. Paris-Orly, le deuxième aéroport français, est le plus touché avec 3/4 de ses vols supprimés. Emmanuel Macron doit prononcer ce matin à partir de 11h un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne à Paris. Le chef de l'État va détailler une série de mesures pour passer à une Europe plus puissante, selon les termes de l'Élysée. Pour apaiser la colère agricole, le Parlement européen a voté hier en urgence une révision de la PAC, la politique agricole commune, avec moins de règles environnementales comme la suppression de l'obligation de jachère par exemple, une décision vivement critiquée par les associations écologistes. Pas de titre de champion de France pour le PSG pour l'instant, malgré sa victoire 4-1 face à Lorient hier soir en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Monaco a battu Lille 1-0, il manque donc un point au PSG pour décrocher son 12e titre.
France Info.
Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jérôme Chapuis.
Toujours avec Léon Desfontaines, tête de liste Parti communiste Gauche Unie aux européennes. Après Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, la ville de Béziers a mis en place un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans non accompagnés, de 23h à 6h le lendemain, et ce jusqu'au 30 septembre. Est-ce qu'il faut en passer par là pour lutter contre la délinquance des jeunes?
Non, enfin, les couvre-feux, on n'est pas opposé par essence, mais il se décrète de manière temporaire. Par exemple, lorsqu'il y a eu les émeutes de l'été dernier, là, il n'y a aucun argument qui vient justifier le couvre-feu qui a été annoncé par le maire de Béziers.
Bah, il parle de jeunes mineurs livrés à eux-mêmes la nuit, une aggravation du nombre de faits de violences urbaines. C'est vrai qu'il cite des événements.
Mais donc la solution n'est pas uniquement coercitive avec ces systèmes de couvre-feu. Il faut mettre en place des moyens. Comment se fait-il en effet que des jeunes soient livrés à eux-mêmes en journée comme la nuit ? Ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui mettre davantage de moyens, notamment pour lutter par exemple contre la délinquance ou pour permettre de recréer, de former les citoyens de demain, parce que souvent ce sont des très jeunes, et pour ça c'est une question de moyens.
Et l'internat par exemple, Gabriel Attal, le Premier ministre, a présenté lundi son plan de lutte contre la violence des mineurs qui passe par l'expérimentation de stages en internat pendant les vacances scolaires pour les élèves difficiles ou décrocheurs, ou alors par un placement à l'année. Est-ce que ça par exemple, ça peut être une bonne solution pour éviter qu'ils soient
livrés? Avec ce gouvernement, on a affaire à des pompiers pyromanes. Ils sont responsables de cette situation. Ils ont baissé considérablement par exemple les aides sociales à l'enfance. Ils ont baissé les moyens pour les associations, pour les éducateurs. Ils ont enlevé des moyens pour l'éducation nationale notamment, et notamment par exemple je pense à l'académie de Créteil qui chaque élève perd l'équivalent d'un an de scolarité pendant toute sa scolarité faute d'enseignants remplacés. Donc forcément aujourd'hui on a des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Si le gouvernement voulait justement permettre de relancer la citoyenneté, lutter contre la délinquance, eh bien c'est avant tout une question de moyens en premier lieu pour l'aide sociale à l'enfance, de moyens pour nos associations, notamment je pense aux associations sportives qui mènent un travail formidable notamment dans nos campagnes et dans nos quartiers populaires qui se sont retrouvés confrontés à des difficultés économiques parce qu'il y a des coupes budgétaires, notamment de subventions à ces associations. Et je pense, enfin, bien évidemment, qui est la mère des batailles, celle de l'éducation nationale. Sur la question de l'autorité, moi je le dis, bien sûr qu'il y a une question d'autorité, mais ça passe en premier lieu par respecter justement les professionnels sur le territoire. Les professionnels, ce sont justement ces responsables associatifs qui aujourd'hui sont bénévoles et peinent à joindre les deux bouts pour leur association parce qu'ils ont eu des coupes de subventions. Ce sont ces profs, ces enseignants qui demandent aujourd'hui à être respectés, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions d'un côté et avoir une revalorisation salariale pour être reconnu à leur juste valeur, au juste métier qu'ils exercent. Eh bien oui, aujourd'hui, il faut l'opposer. L'augmentation des salaires des fonctionnaires doit être mise à l'ordre du jour, comme le recrutement massif d'enseignants. On avait jugé qu'il fallait au moins 90 000 enseignants justement pour répondre aux demandes et notamment augmenter le temps passé à l'école, qui je pense en effet est une bonne mesure, à condition bien sûr qu'elle serve à permettre de financer des sorties, permettre de faire ses devoirs à l'école, plutôt que d'être une simple garderie, comme le propose Gabriel Attal.
Léon Desfontaines, encore plusieurs questions d'actualité dans les quelques minutes qui nous restent. La patronne des députés LFI, Mathilde Panot, va être entendue dans une enquête pour apologie du terrorisme, après avoir été convoquée par la police avant-hier mardi. Est-ce que ça vous choque ?
Ça me choque aujourd'hui parce que je pense qu'il n'y a pas de délit d'opinion politique, encore moins pour une responsable politique, une députée représentative de la nation à l'Assemblée nationale. Et je parlais du délit d'opinion. En revanche, quelles sont ces opinions ? Moi, ces opinions, je ne les partage en aucun cas. Et il faut le dire quand même, depuis le 7 octobre, moi, je suis particulièrement mal à l'aise par les positions de la France insoumise. Le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Quand j'entends Madame Obono, par exemple, dire que le Hamas mène une action de résistance du peuple palestinien, ou Madame Hassan dire que le combat du Hamas est légitime, je pense qu'il y a un profond problème. Vous savez, moi, je me suis engagé en 2013, à l'âge de 17 ans, chez les jeunes communistes. Depuis cet âge-là, je suis engagé pour la cause palestinienne, et comme la majorité des Français, je suis profondément scandalisé par ce qui se passe à Gaza. Mais comme la majorité des Français, je ne veux pas être associé à la France insoumise et aux propos et à la dérive qu'elle a eue ces dernières années. Donc je le dis aujourd'hui avec force, la France insoumise est en train de souiller et piétiner le combat palestinien à des fins électorales, et ça, je ne leur pardonnerai jamais.
La rupture est consommée avec la France insoumise ?
La rupture est consommée. Moi, quand je les vois comme ça bafouer la question palestinienne juste à des finalités, à des fins électorales, eh bien, je pense que c'est un problème.
C'est du clientélisme.
Nous n'avons pas attendu la campagne européenne pour parler de la Palestine. Et d'ailleurs, nous avions, avec les députés, présenté une résolution qui visait à dénoncer le système d'apartheid mis en place par Israël en Palestine. Et à cette époque-là, Madame Panot et Monsieur Quatennens, deux députés de la France insoumise, avaient retiré leur signature. Si vraiment ils étaient engagés pour la cause palestinienne, comme je le suis depuis quelques années, eh bien, ils seraient engagés à nos côtés, bien avant et pas uniquement lors des élections.
François Ruffin serait mieux placé que Jean-Luc Mélenchon si la gauche s'unissait pour la présidentielle de 2027, selon un sondage. Vous avez grandi à Amiens, comme François Ruffin, comme le
président.
Dans
sa circonscription, d'ailleurs.
Dans sa circonscription. Est-ce qu'il incarne l'espoir de la gauche ?
Il n'y a rien d'étonnant au fait qu'il dépasse Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin, je vois le travail qu'il mène en tant que député. Et finalement, il se retrouve assez en adéquation avec moi ce que je souhaite porter dans cette campagne européenne ou ce que Fabien Roussel a porté en 2022. Celle de remettre de la question sociale, la question du travail, de la réindustrialisation au cœur de ses priorités. Et moi, ce combat qui est porté par François Ruffin, je souhaite le mener au Parlement européen. D'ailleurs, je le dis, en réalité, je pense que François Ruffin aurait beaucoup plus à faire à soutenir la liste que j'ai l'honneur de mener de la gauche unie pour le monde du travail. De la France Insoumise.
Non, mais la rupture n'est pas complètement consommée avec tous les membres de la France Insoumise.
Mais non, mais la France Insoumise est un agrégat très hétérogène. Vous venez de me le dire, la différence entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, je pense qu'auprès de l'ensemble de nos téléspectateurs et de nos auditeurs, elle est clairement identifiable. Et notamment, moi, je salue le fait que François Ruffin, comme Fabien Roussel d'ailleurs, essaye de remettre la question du travail, de la gauche du travail, de la question sociale au cœur de son projet. Et d'ailleurs, il faut regarder. Je connais très bien cette circonscription. Marine Le Pen était en progression lors de l'élection présidentielle et il a réussi, comme Fabien Roussel dans sa circonscription d'ailleurs, à faire résistance à la vague du Rassemblement National. Parce que justement, cette gauche qui remet la question du travail au cœur de son projet, c'est cette gauche-là qui arrivera demain à faire reculer l'extrême droite, j'en suis persuadé. C'est le combat que je souhaite mener dans cette campagne
donc
européenne.
On verra si les communistes s'effacent derrière François Ruffin en 2027. C'est pas impossible quand on vous
écoute. Il y a une campagne européenne. En tout cas, cette gauche du travail, moi je souhaite qu'elle prenne le plus de place possible. Ça c'est clair.
Merci Léon Desfontaines, tête de liste Parti communiste Gauche unie pour les européennes. Merci d'avoir été l'invité du 8:30 France Info.